Bonjour à chacun. Je vous propose ce matin de poursuivre notre périple avec David. Et j'aimerais ainsi lire avec vous le début du chapitre 5 de la deuxième lettre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent « Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi, David, qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était âgé de 30 ans à son avènement, et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Nous passons maintenant à une autre phase de ce couronnement, avec la conquête de Jérusalem, où il est écrit « Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens. » La ville s'appelait Yébus et ça donnait Jérusalem, Jérusalem. Le roi marcha sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens qui habitaient la région. Et ceux-ci déclarèrent à David, « Tu n'entreras pas ici. Même des aveugles et des boiteux te repousseraient. » C'était une manière de dire, « David n'entrera pas dans la ville. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes, « Celui qui veut battre les Yébousiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et ces aveugles, je les déteste. » Et c'est de là que vient le dicton, « Les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans ma maison. » David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures, jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. Et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. Jusque-là, la lecture. Seigneur, ta parole est vivante et nous te demandons que cette parole, nous puissions l'entendre ce matin. Amen. Vivre en chrétien, c'est en quelque sorte vivre aligné sur Jésus-Christ. Vivre en chrétien, c'est vivre le salut de Dieu. Pour dire autrement, la vie chrétienne est quelque chose qui se développe non pas parce que on nous l'imposerait de l'extérieur, mais la vie chrétienne est quelque chose qui se développe de l'intérieur, de manière organique, un peu comme une plante qui se développe naturellement si vous la laissez au soleil ou à la pluie. Si vous mettez votre vie à la lumière du soleil de Jésus-Christ ou sous l'ondée du Saint-Esprit, elle se développera aussi. Et quand Dieu met sa vie en nous, il nous permet de devenir davantage humains, c'est-à-dire de perdre quelque part cette inhumanité que le mal a introduit en nous. Nous venons moins une caricature de Dieu et nous venons de plus en plus ce que Dieu aimerait que nous soyons. Le récit de la vie de David est extraordinaire dans ce sens-là, parce qu'il ne nous dit pas comment nous devrions faire en théorie, mais il nous montre comment la présence de Dieu agit dans la vie d'une personne et transforme cette personne peu à peu. David ne prie pas 24 heures sur 24, et pourtant toute sa vie est prière. Il a été influencé dans sa foi par les événements que Dieu a mis sur sa route. Toute sa vie a été façonnée par Dieu. Il a commencé déjà tout petit à craindre Dieu quand il gardait les troupeaux de son père. Mais il n'est plus le même quand il deviendra plus grand. Il grandit, il gagne en maturité. Après les troupeaux, ce sera Goliath dans son adolescence. Et puis il deviendra musicien à la cour du roi, avant d'entrer même dans la garde personnelle du roi. Et toutes ces expériences que le Seigneur lui permet de vivre le font gagner en maturité. Il change encore. Il grandit dans sa foi quand il doit fuir dans le désert. Pendant 8 années, il va conduire des actions de commando pour être en quelque sorte la police du désert avec 600 hommes. Et là encore, il rencontre Dieu. Il prie Dieu. Il écrit des psaumes dans le désert. On voit un homme chez qui la foi se développe. À l'âge de 30 ans, il devient roi d'une tribu, celle de Juda. Et ça lui fait franchir une nouvelle étape en maturité. Et 7 ans plus tard, quand il a 37 ans, on lui demande de devenir le roi de tout Israël. Dieu l'a préparé, il l'a préparé longtemps pour accepter cette lourde tâche de devenir le berger et le chef d'Israël. Quand on regarde la vie de David, on voit comment la foi est chevillée au corps chez lui. Il a vécu beaucoup de conflits. Il a vécu des guerres. Physiquement, il a été menacé. Il a dû fuir. Et tout cela, ça aurait pu l'amener à de l'aigreur. Ça aurait pu nourrir de l'amertume. Il a subi des trahisons. Il a été sans cesse en guerre avec Saül qu'il poursuivait. Tout cela, ça aurait pu l'enfermer sur lui-même. Sa vie aurait pu se rabougrir. Et au contraire, à l'âge de 37 ans, David est un homme épanoui. Un homme qui était forgé de l'intérieur pour devenir un roi de paix, de justice et d'amour. Et les expériences que Dieu met sur notre route ont cette faculté soit de nous diminuer et de nous éloigner, soit d'augmenter notre foi et de nous ouvrir aux autres. Chez David, Dieu a permis, dans sa grâce, que tous ces événements difficiles qu'il a connus sur sa route lui permettent d'avoir une foi plus solide, plus vivante, plus forte pour son Dieu. En suivant son Dieu, il est devenu un homme de prière, un homme d'obéissance. Il a acquis une robustesse dans sa foi, une sagesse qui lui permet de prendre désormais la direction du peuple de Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir, comme on l'a lu tout à l'heure, 2 événements particuliers. Le premier qui est l'onction qui est conférée à David, c'est la 3e fois qu'on lui confère une onction royale. Et le 2e événement, c'est la prise de Jérusalem. Et puis on terminera en voyant comment Dieu est prêt à donner le succès à ceux qui lui obéissent. Dans la première partie de ce récit qui nous parle de l'onction, nous nous souvenons qu'une guerre civile vient de ravager Israël. Une guerre qui était manigancée par les militaires, mais qui est maintenant terminée. Qui s'est terminée par l'assassinat de 2 personnes clés dans le nord d'Israël, le général Abner, et le roi qu'il avait mis en place, Ish-bosheth. David, au lieu de se réjouir de la mort de ses ennemis, les pleure. Il les pleure parce qu'ils étaient aussi ses frères. Ils étaient membres du même peuple, le peuple de Dieu. Et vous vous souvenez, on l'a vu la dernière fois, qu'Abner, avant d'être assassiné, venait de retourner sa veste. Il venait de prêter allégeance à David. Et il avait également commencé à préparer les tribus du Nord à accepter l'autorité de David. Et c'est ainsi qu'une délégation vient du nord, se rend à Hébron, la capitale où règne David. Et cette délégation vient pour dire trois choses à David. Premièrement, nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes du même sang, de la même race. Nous ne pouvons pas rester divisés dans ce royaume. Nous sommes un seul et même peuple. Nous devons nous unir autour de ta personne. Ils lui disent une deuxième chose. Nous reconnaissons tes capacités de direction et de leadership. Nous t'avons vu à l'œuvre déjà autrefois dans ce que tu faisais. Quand tu étais dans la garde personnelle du roi Saül, nous avons vu comment tu savais mener des hommes. Donc nous te faisons confiance pour diriger notre peuple. Et lui disent une troisième chose. Nous reconnaissons l'appel de Dieu dans ta vie. Nous reconnaissons qu'il y a eu une promesse divine. Dieu t'a appelé à être le berger d'Israël. Israël, c'est bien le peuple de Dieu, et il a dit que tu en deviendrais le chef. Et nous acceptons cet appel de Dieu sur ta vie. Nous reconnaissons que tu es appelé à être notre berger. Ces trois choses m'invitent à faire un parallèle avec l'Église. David est une figure du Christ déjà. Jésus-Christ est le fils de David d'ailleurs. Et le peuple d'Israël est en germe le peuple de Dieu, l'Église. Or, il y a trois choses que nous pouvons retenir de ce que cette délégation du Nord vient demander à David ou vient promettre à David. Nous pourrions le dire de la même manière pour nous, Église. La première chose, c'est que les diverses tribus chrétiennes ne peuvent pas non plus rester divisées. Nous sommes de la même race. Dieu appelle à l'unité des croyants. Certes, les tribus vont exister, mais elles peuvent exister dans l'unité et non pas dans la division. Et cette unité n'est possible qu'autour d'un seul chef, Jésus-Christ, qui est le berger qui a été promis à son Église. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que comme cette délégation a vu David à l'œuvre autrefois et est prêt à lui faire confiance, nous avons vu nous aussi Jésus-Christ à l'œuvre autrefois, quand il était sur la terre. Et Jésus a manifesté beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de vérité. Jésus a usé de générosité. Et donc nous pouvons nous aussi faire confiance à Jésus et accepter qu'il nous dirige. Et la troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que tout comme cette délégation a reconnu qu'il y avait un appel de Dieu sur la vie de David, nous pouvons reconnaître aussi que Jésus a été appelé par son Père à être le bon berger de son peuple. Il est le divin berger. Et c'est ainsi que nous pouvons accepter qu'il soit le chef de son Église et qu'il soit notre Seigneur. Nous pouvons reconnaître sa royauté dans nos vies et dans l'Église. Et j'aimerais faire deux remarques encore par rapport à cette accession de David au trône. La première, c'est que David a su faire preuve d'intelligence politique, stratégique et militaire. Et pourtant, ce n'est pas grâce à cette habileté personnelle qu'il accède au trône. Son ascension ou son accession au trône est présentée comme l'œuvre du Seigneur. À deux reprises, le texte nous montre que c'est le Seigneur qui est intervenu. D'abord par la bouche d'Abner, qui avait reconnu devant Dieu et devant David que Dieu avait demandé à David d'être le berger de son peuple. Une deuxième fois maintenant avec cette délégation qui vient du Nord et qui reconnaît que c'est le Seigneur qui amène David à être celui qui va paître Israël, son peuple. Remarquez que cela fait une vingtaine d'années, quand même, c'est pas rien, que Dieu a commencé son travail. Il a préparé les choses. Entre le moment où Dieu a conféré l'onction sur David par le prophète Samuel, un peu dans le secret, alors que David est encore jeune, mais entre le moment où Dieu a fait cette promesse à David qu'il allait accéder au trône, et le moment où il accède effectivement à la royauté sur Israël, il s'est écoulé à peu près 2 décennies, 20 ans. 20 ans de préparation. Pour Moïse, cette préparation va même durer 40 ans. Et entre le moment où Dieu peut nous appeler à un service et le moment où ce service devient effectif, il s'écoule généralement tout un temps de préparation qui peut durer des années. Des années au cours desquelles nous allons rencontrer des obstacles, des difficultés. Mais avec ces obstacles et ces difficultés, Dieu nous façonne. Dieu vient nous parler, Dieu nous montre comment nous pouvons grandir avec lui dans la foi. Quand David a 37 ans et qu'on lui demande d'accéder au trône sur tout Israël, il est prêt. Dieu l'a préparé pendant 20 ans pour ce poste-là. La deuxième remarque que j'aimerais faire par rapport à cette accession au trône, c'est que le texte mentionne que David est appelé à être berger d'Israël et chef d'Israël. Or, ailleurs dans le récit, très souvent c'est le mot roi qui apparaît. Mais ici, dans la demande qui est faite, le mot roi n'apparaît pas. Comme s'il fallait, pour le narrateur, bien montrer la différence avec le roi qui avait précédé et qui, lui, ne s'était pas montré à la hauteur de la mission qui lui était confiée. Et en utilisant les mots berger ou paître et le mot chef, c'est une manière pour le narrateur de dire « Voilà ta mission, David. Tu n'es pas juste appelé à exercer une royauté à la manière de ton prédécesseur, mais tu es appelé à être le berger et le roi et le chef sur ton peuple. » Être le chef, c'est diriger, conduire, montrer la direction. C'est ce qu'on appelle le leadership aujourd'hui. David est appelé à être le leader sur la nation. Être le berger, c'est prendre soin, être avec les brebis, s'occuper d'elles, manifester de la justice, de l'amour, de l'équité. Tout cela, David l'a appris depuis son plus jeune âge. Il l'a appris au désert, il l'a appris à Tsiklag. Il l'a appris quand il est devenu chef de sa tribu natale, Juda. Et maintenant, il peut endosser le rôle que le Seigneur a prévu pour lui. Il est appelé à prendre soin de son peuple. Quand les responsables viennent vers lui et lui disent « Sois notre chef, sois notre berger », on peut presque entendre « Sois notre chef » à la manière dont tu l'as été autrefois quand tu dirigeais déjà des troupes. Ne change pas, David. Ne te mue pas en monarque assoiffé de pouvoir qui a besoin de signifier son existence en oppressant les autres et en satisfaisant son ego personnel. David a un modèle. Il sait ce que veut dire être berger. Il l'a appris en étant proche de son Dieu. Et il le traduit dans le psaume 23 d'ailleurs, quand il écrit « L'Éternel est mon berger ». J'ai donc un modèle. Je sais ce que veut dire être berger. Je suis appelé à être berger comme l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. La vie de David n'a pas été facile. Mais dans son expérience, il a compris, il a appris ce que voulait dire être un homme de prière. Il a compris qui était Dieu, comment il prenait soin de lui. Il a vu que Dieu était toujours juste, équitable, plein de vérité. Il a vu que Dieu l'avait délivré, qu'il a été son salut. Et désormais, il est appelé à être le berger d'Israël. Il a devant lui la figure du berger des bergers. Il était appelé à être un petit berger à la suite du grand berger. David devient donc roi. Et nous arrivons à un deuxième récit clé qui est mis juste en parallèle. Peut-être n'a-t-il pas eu lieu exactement dans la foulée. Il est probable qu'il y ait une distance dans le temps. Mais le narrateur a voulu mettre ces deux événements côte à côte pour bien montrer la signification essentielle de ces deux événements. Le deuxième événement, c'est la conquête de Jérusalem. Jérusalem qui devient la cité de Dieu. C'est un récit symbolique. Cette conquête de Yébus qui devient Jérusalem, Jérusalem. Yébus était une cité stratégique qui était restée indépendante pendant des siècles. Personne ne l'avait vaincue. On lui avait pris un petit bout de territoire, elle avait été reconquise peu après. Cette prise de Jérusalem est hautement symbolique. Elle est le joyau de la couronne. Elle est l'apogée de la carrière de David. On considérait que c'était en quelque sorte une sorte de merveille militaire. C'était pas une très grande ville à l'échelle d'aujourd'hui. Il pouvait y avoir 3500 habitants à cette époque. 3500 habitants perchés dans une ville qui était sur un promontoire. Et le site était réputé pour être imprenable. Sur trois côtés, la ville était protégée par des pentes abruptes qui se terminaient dans des ravins. Quand David est devenu roi, il s'est demandé où il fallait qu'il implante la capitale qui allait devenir la cité administrative et spirituelle d'Israël. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas rester à Hébron, dans sa terre natale, parce qu'on ne pourrait pas lui faire confiance s'il restait trop proche des siens. Il y a des chefs qui ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, on le voit notamment dans certains pays africains où parfois le chef revient dans sa terre natale, il construit de grands palais et protège les siens. Il y avait un défi pour David, c'était d'unifier la nation qui venait de s'entre-déchirer dans une guerre civile. Il choisit donc de trouver un lieu qui soit neutre, qui soit la jonction entre Juda au sud et les tribus au nord, et ce lieu était précisément cette citadelle de Yébus qui devient Jérusalem. Une cité imprenable, comment va-t-on la prendre? Cette cité joue la fière. Elle dit qu'elle est invulnérable, elle le croit, mais David vient, examine les défenses de la ville, et d'après le verset 8, il en conclut qu'il y a une seule possibilité pour entrer dans la ville, ce serait de passer par un canal souterrain qui permettait à la ville de s'approvisionner en eau et de prendre la source du Guihon, qui était aussi sous terre. En franchissant ce souterrain, il y avait un canal, un puits de 13 à 15 mètres de hauteur qu'il fallait ensuite escalader pour entrer dans la ville. David écrit « C'est le seul moyen pour entrer dans la ville ». Et des recherches archéologiques ont montré qu'il existe ce canal et qu'il existe ce puits de 13 à 15 mètres de haut. Certes, le mot qui est employé pour « canal » a été compris différemment par certains, mais aujourd'hui je pense que l'interprétation la plus retenue, c'est celle que je viens de vous mentionner. Les Yébousiens pensaient que jamais David ne pourrait pénétrer dans leur ville. Ils en étaient même tellement sûrs qu'ils étaient allés jusqu'à dire que même des aveugles ou des boiteux seraient encore en mesure de défendre la ville, puisque de toute façon elle ne serait jamais prise. Ils n'imaginaient pas que la ville puisse tomber. Elle n'était jamais tombée. Mais David et ses hommes empruntent ce passage souterrain et prennent la ville. David s'installe dans la forteresse, il élargit les murailles, il rend la ville plane pour pouvoir la construire davantage et qu'elle devienne ainsi le centre administratif et spirituel du pays. Jérusalem, depuis lors, s'appelle parfois aussi cité de Sion ou cité de David. Parce que elle porte le nom simplement de celui qui l'a conquise. Ici, une autre difficulté vient dans le texte. C'est qu'il a déjà été question de ces aveugles et de ces boiteux, mais il est précisé encore qu'au jour de la conquête, David aurait dit « Ces boiteux et ces aveugles, je les déteste. » Et il a ensuite précisé qu'il en serait émané un dicton qui disait « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison, vraisemblablement dans la maison du Seigneur. » Et c'est une affirmation qui surprend. Comment des personnes handicapées ne pourraient pas entrer dans la maison de Dieu? Et comment David pourrait-il mépriser des gens qui sont handicapés? Face à cette difficulté, je crois qu'il faut comprendre qu'on a là une mauvaise piste si on comprend le texte comme cela. En fait, on le voit peu de temps après, David prendra à sa cour Mephibosheth qui est handicapé. Et il prendra soin de cet homme, il en fera même un prince sur Israël. Les personnes que déteste David ne sont pas les handicapés, les boiteux et les aveugles, mais ce sont d'abord ces Yébousiens qui l'ont ridiculisé et qui ont affirmé que même des infirmes seraient en mesure de garder la ville. David n'aime pas ces gens qui non seulement le ridiculisent, parce qu'il pourrait très bien passer par-dessus, mais qui en le ridiculisant, ridiculisent Dieu, parce que c'est bien Dieu qui a permis qu'il prenne la ville. Et donc ce sont ces gens-là contre lesquels David s'offense. Et puis, quand il est dit que ceux qui sont interdits d'entrer dans la maison de Dieu sont des aveugles et des boiteux, ce ne sont pas les handicapés, mais ce sont ces Yébousiens qui, jusqu'au dernier des hommes, même jusqu'à l'handicapé, ont offensé Dieu dans leur manière de faire. Eh bien, ceux-là ne pourront pas entrer dans la maison de Dieu s'ils restent dans leur offense. Désormais, donc, Jérusalem devient le centre spirituel et le lieu de la présence de Dieu. Jérusalem est la cité de Dieu. Comme le dit d'ailleurs le psaume 46, qui dit « Dieu réside au milieu de Jérusalem. Il vient à son secours dès le point du jour. » Et dans le même psaume, il est ajouté à deux reprises « Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. » Avoir Dieu comme refuge, c'est être à Jérusalem. Être à Jérusalem, c'est avoir Dieu pour refuge. Et c'est pour ça que dans ce psaume, l'auteur écrit « Dieu est pour nous un rempart, comme les remparts de Jérusalem. Il est un refuge, comme cette citadelle placée en hauteur. » Être à Jérusalem, c'est être entre les remparts de Dieu, sous sa protection bienveillante. Malheureusement, le peuple d'Israël usurpera parfois cette vérité en pensant que Dieu allait toujours être avec lui, quelle que soit son attitude. Or, quand son peuple désobéit, qu'il fuit, qu'il s'écarte de la loi, Dieu ne peut plus promettre sa bénédiction. Sa bénédiction dépend de la loyauté du peuple. Donc Dieu devra menacer Jérusalem de destruction par la bouche du prophète Jérémie plus tard. Et pourtant, une vérité demeure, c'est que Dieu est avec son peuple. Et c'est parce qu'il est avec son peuple qu'il promet qu'un jour, il enverra un libérateur en la personne de son fils Jésus, Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous avons cette espérance d'une présence continuelle du Seigneur. Un jour, il y aura une nouvelle Jérusalem, une cité dans laquelle brillera la lumière de Dieu sur son peuple. Sa Jérusalem terrestre s'est déclarée hostile à Jésus-Christ. Elle l'a crucifié sur une croix. Cette Jérusalem est condamnée par le Seigneur. Elle va disparaître. Cette cité terrestre perdra son statut de ville sainte ou de cité de Dieu. Elle perdra aussi ce statut parce que nous entrons dans une nouvelle économie du salut avec Jésus-Christ. Désormais, c'est Christ qui est le lieu de la présence de Dieu sur terre. Les vrais adorateurs n'adorent plus le Père à Jérusalem, mais ils l'adorent par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui rend Dieu présent au milieu de son peuple. Et son peuple n'a pas besoin d'être assemblé à Jérusalem pour connaître le Seigneur. Dieu se rend présent partout dans le monde, là où son peuple est rassemblé. Dieu n'est plus localisé à Jérusalem. Et le Nouveau Testament pointe sur un jour nouveau, quand Christ reviendra à la fin du monde et qu'il fera descendre une Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Dans cette ville qui descendra du ciel, il n'y aura plus besoin de lumière. Dieu éclairera la ville de sa simple présence. Dieu sera pour toujours aux côtés de son peuple. Et puis Jérusalem, la cité de Dieu, cette cité spirituelle, sera à jamais une ville de paix, la ville où on peut expérimenter la paix de Dieu. David est devenu roi. Il a pris Jérusalem. Nous voyons toutes les implications pour nous dans notre foi. Et le narrateur termine ce récit en disant « David s'élevait de plus en plus, il devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. » David a remporté des succès militaires, politiques. Dieu l'a béni. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, David n'a pas été ce qu'il a été grâce à son propre génie. Il est devenu l'homme de Dieu parce que Dieu l'a gardé sur la route. Et que c'est Dieu qui a préparé ces événements. Derrière la puissance de David se cache un secret. Le secret de la prière. Le secret de l'intimité avec Dieu. Le secret d'un homme qui s'est resté dans la présence de Dieu. Rapidement, les gens viendront vers lui, verront qu'il est en quelque sorte le préfigurateur du Messie, et même des rois païens viennent lui apporter les richesses. Un jour, plus personne ne pourra résister au Christ. Déjà là, quelques-uns reconnaissent la royauté de David. David s'élève de plus en plus aux yeux de son peuple, aux yeux des nations alentours, mais il s'élève aussi devant Dieu, non pas dans l'orgueil, mais dans la maturité. Il devient un homme selon le cœur de Dieu. David était transformé à l'école de Dieu, et le message de ce matin nous amène à comprendre que Dieu veut aussi nous façonner à son école, à l'école de Jésus-Christ, à l'école de David. Nous voulons laisser le Seigneur utiliser les circonstances de notre vie pour qu'on grandisse en maturité, qu'on devienne des instruments de justice, de paix, d'amour pour ceux qui nous entourent, qu'on soit là à la disposition du Seigneur, qu'il puisse nous utiliser comme il l'entend et qu'ainsi le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.